Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Comment allez-vous ?
Bien,
froid.
Mais bien.
Hein ? Bon, ça c'est une bonne question. Ça, comment vous allez ? Hein ? On la pose souvent, non ?
Oui, mais parce qu'on est là.
Ah voilà. Et quand on nous demande comment on va ? Ah ben on réfléchit deux secondes. Est-ce que je suis un peu malade? Ah ben tiens, là j'ai un peu. Oui, oh ben. Ou alors non, ça va bien. Ou alors est-ce que j'ai froid? Ou alors est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai ma voiture là qui m'a lâché? Est-ce que j'ai une petite inondation contrariante? Est-ce que j'ai la patate ou est-ce que j'ai pas trop le moral? Voilà, on réfléchit deux secondes et puis on dit ouais, ça va, ou alors bon, ça pourrait aller mieux parce que ceci, parce que cela. Et quand on demande aux gens comment ils vont, on répond. Hein. Alors des fois on le demande avec sincérité, des fois c'est par pure politesse, mais on va partir du principe qu'on le demande quand même avec sincérité, avec sollicitude. Quand on dit comment vas-tu, on s'intéresse à l'autre et on le demande avec sollicitude. Eh bien, dans une église, je crois qu'après avoir demandé à quelqu'un comment il va, on devrait compléter notre sollicitude, hein, par une deuxième question. Et comment va ta foi ? Ah, comment va ta foi ? Oula, ça devient intime là. Regardez notre chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. Oui, nous découvrons un chapitre très important qui nous montre un pan de vie de l'apôtre Paul envers les chrétiens de la ville de Thessalonique, une ville qu'il a évangélisée assez rapidement parce qu'en quelques jours, une église a été fondée, mais aussi en quelques jours, une forte opposition est apparue, au point que il y a eu des chrétiens qui ont été arrêtés, ils ont dû payer une caution, en garantissant quelque part que Paul allait pouvoir partir illico presto et ne plus continuer de semer du trouble. Du point de vue des autorités, c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont fait partir de nuit. Il n'est pas resté très longtemps. Et à la suite de cela, cette église naissante a subi vraiment des fortes pressions. Et Paul, dans ce chapitre, exprime toute la sollicitude qu'il a pour ses chrétiens. Un cœur de père, un cœur de mère, on l'a vu dans les chapitres précédents. Mais il ne se contente pas de demander, bon, mais comment vous allez ? Comment vous allez ? Ça va bien, pas trop froid, ça va bien, assez d'argent, ça va bien, pas trop de problèmes, là, de persécution. Non. Il dit, mais comment va votre foi ? Comment va votre foi ? Et nous le voyons au travers d'expressions comme au chapitre 1, impatient que nous étions, nous envoyâmes Timothée pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi afin que personne ne soit ébranlé. Il y a une impatience, il y a une inquiétude qui est là pour l'apôtre Paul. Est-ce que les chrétiens vont tenir le choc ? Est-ce que leur foi va tenir ? Est-ce qu'ils vont bien dans leur foi ? Il exprime encore plus précisément au verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Dans ce verset, l'apôtre Paul exprime vraiment le fait que il est dans cette sollicitude et cette inquiétude envers les chrétiens, en disant, mais comment va votre foi? J'ai peur qu'elle aille mal. J'ai vraiment peur qu'elle aille mal. Je me fais du souci. Et je ne vais pas attendre. Je ne peux pas me rendre moi-même à Thessalonique parce que je suis persona non grata. Mais par contre, je vais envoyer Timothée. Et puis Timothée, il va venir pour faire un état des lieux, pour tâter le terrain, pour faire un constat, pour voir si votre foi va bien ou si votre foi va mal. J'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Oui, il y a un combat. Il y a une sollicitude, mais il y a une inquiétude. Et cette inquiétude, elle vient du fait que Paul sait très bien qu'il y a un combat spirituel qui a lieu et que Satan, en tant que personne spirituelle opposée à Dieu, fait tout ce qu'il peut pour enlever les bonnes graines de l'évangile, y compris chez les chrétiens, y compris chez ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il veut leur enlever le bénéfice de l'évangile. Oui, Satan tâche de démolir ce qui est bâti spirituellement dans l'âme des chrétiens, dans notre âme. Et voilà pourquoi Paul, qui a cette sollicitude, ne se contente pas de demander « est-ce que vous allez bien ?» Mais est-ce que votre foi va bien? Et dans une église, en premier lieu, les responsables spirituels d'une église doivent s'inquiéter de la santé spirituelle des membres. Il ne s'agit pas pour les responsables d'église simplement de dire « Bon, comment ça va en ce moment ? Ah, tu as des soucis dans ton travail, tu as... » Bon, et on peut parler de plein de choses, mais ne jamais parler de l'âme. D'accord, tu as des soucis dans ton travail. Oui, les Thessaloniciens, ils traversaient la tourmente. Il est parlé d'affliction, il est parlé de persécution. Paul le sait. Il sait que de ce point de vue-là, c'est pas la joie, hein. c'est pas au top. Hein. Mais on peut avoir un peu des inquiétudes et des soucis ici ou là, traverser des épreuves. Mais la vraie question, c'est au milieu de ces épreuves, au milieu de ces afflictions, comment va ta foi? Est-ce que ta foi va bien? Le rôle des responsables spirituels à cet égard est précisé dans l'épître aux Hébreux. Hébreux 13, verset 17. En Hébreux 13, nous lisons ceci, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Il y a à la fois cette responsabilité des conducteurs d'une église, ils doivent rendre compte à Dieu pour l'âme du troupeau. Et parce qu'ils doivent en rendre compte, ils doivent veiller dessus. Le mot qui est employé ici, veiller, c'est le mot épiscope, c'est le mot qui a donné aussi un qualificatif pour nommer les anciens, c'est le mot de surveillant, hein, l'épiscope, le surveillant. En français, ça nous a donné caméscope, télescope, hein, scope. Scopos, c'est regarder, scruter, observer. D'où le caméscope, d'où le télescope, qui nous permettent de regarder précisément les images. Dans un sous-marin, c'est le périscope. C'est ce machin qui montre, qu'on fait dépasser de l'eau et qui périt, c'est tourner autour. Hein. Périt, c'est le périmètre. Hop. On fait tout le tour et on scrute la mer. Voilà, c'est ce mot-là. Veillez. Alors, lorsque Timothée vient de la part de Paul, c'est pas simplement pour dire « Bon alors, ça va ta foi en ce moment, toi ? Ouais, ouais, ça va, toi bien. » Il ne s'agit pas simplement de se contenter d'une réponse, vous savez, toute faite, comme quand on dit aux gens « Ça va, toi ? Oui, ça va, ça va. » En fait, ils vont pas du tout, mais ils vont vous dire « Ça va. » Et pour la foi, c'est la même chose. Comment va ta foi ? Ça va. Oui, mais Timothée, il ne va pas s'arrêter à ça. Il va regarder. Il va regarder comment ces gens vivent. Il va regarder comment ils se comportent. Il va regarder comment ils réagissent. Il va regarder leur vie familiale. Il va regarder leurs relations entre eux. Et puis de là, il va voir si effectivement leur foi va plutôt bien ou si elle ne va pas si bien que ça. Oui, le responsable d'église, de la part de Dieu, a cette responsabilité de s'assurer, de s'inquiéter de la santé spirituelle des âmes. Alors, avançons là-dedans et si je vous pose maintenant cette question, comment va ta foi en ce moment ? Comment va ta foi ? Vous avez peut-être une première réponse un peu rapide à me donner. Comment va ta foi en ce moment ? Mais réfléchissons-y un peu plus profondément. Comment est-ce que je vais évaluer la santé de ma foi ? Sur quels critères ? Tout à l'heure, on l'a dit, hein, pour comment est-ce qu'on va dans la vie ? Bon, on regarde un peu si j'ai un peu une maladie en ce moment, si j'en ai pas, ça va bien. On regarde si j'ai des problèmes d'argent, si j'en ai pas, ça va bien. On regarde si j'ai des contrariétés, de ma maison qui a explosé, ou je sais pas, si j'ai perdu mon travail. Bon. Et puis si tout ça, ça va bien, bon, on regarde un petit peu si en plus on a le moral ou pas. Et puis on tire une petite conclusion en disant, oui, ça va plutôt bien, ou ben non, ça va pas en ce moment, quoi. Et pour la foi ? Si vous deviez demander à un chrétien « Comment va ta foi ?» et qu'il vous dise « Oui, ça va bien. » Quels seraient les critères, les choses à partir desquelles vous diriez « Il dit que ça va bien, mais j'ai pas l'impression que ça va si bien que ça. » Ou alors « Oui, il dit que ça va bien et je crois qu'effectivement sa foi a l'air de bien aller, ça me fait plaisir. » Comme dit l'apôtre Paul, ça m'apporte une joie. Moi, pour ma part, à quoi est-ce que je m'attends pour savoir si ma foi ou celle des autres va bien ? Je propose quelques critères. Moi, si je dois dire que ma foi va bien, alors je m'attends à ce que la personne à qui je pose la question puisse me dire que il se confie régulièrement au Seigneur dans la prière en ce moment, qu'il lui ouvre son cœur régulièrement et qu'il ouvre aussi régulièrement ses oreilles pour écouter le Seigneur dans la parole de Dieu. Déjà, si la foi de quelqu'un va bien, je m'attends à ce qu'il soit en relation avec le Seigneur, en dialogue avec lui. Moi, si on me dit ma foi va bien mais qu'on n'est pas en dialogue avec le Seigneur, non, c'est pas vrai, ta foi va pas bien. T'es pas en dialogue avec Dieu. Et une autre chose à laquelle je m'attends, c'est que ce chrétien ne soit pas saisi au piège d'un péché particulier qui, en ce moment, a plutôt tendance à dominer régulièrement sa vie. Quelqu'un qui dit sa foi va bien, mais qui en ce moment est aux prises régulièrement avec un péché qui a plutôt une tendance à le vaincre, souvent, sa foi ne va pas si bien que ça. Je m'attends à ce que un chrétien dont la foi va bien, je m'attends à ce qu'au milieu des difficultés, comme les Thessaloniciens ici, je m'attends à ce qu'au milieu des difficultés de la vie, ils tiennent ferme pour le Seigneur. Et qu'ils parviennent dans l'ensemble à saisir la paix et la joie qui vient du Saint-Esprit au milieu des difficultés. Je dis dans l'ensemble. Mais que dans l'ensemble, en traversant les difficultés, ils tiennent ferme et qu'ils parviennent dans l'ensemble à saisir la paix et la joie du Saint-Esprit. Les Thessaloniciens, c'était leur cas. Sinon, c'est que la foi ne va pas si bien que ça. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, et c'est tant d'autres choses. Je m'attends à ce que quelqu'un dont la foi va bien, je m'attends à ce qu'il ait à cœur de travailler pour Dieu, d'œuvrer pour Dieu, de servir le Seigneur. Et je m'attends à ce qu'il le fasse à son niveau, là où le Seigneur le place. Mais je m'attends à ce qu'il soit au service du Seigneur. Quelqu'un dont la foi va bien, il travaille pour Dieu, il parle du Seigneur aux autres, il cherche comment servir Dieu. Et puis enfin, je m'attends à ce que ce chrétien ait aussi en vue quelques domaines de progrès spirituel à faire. Quand la foi va bien, on a toujours à l'esprit ce qui ne va pas, en fait, vous savez. Quand la bonne santé spirituelle est là, le Saint-Esprit régulièrement nous éclaire, nous guide, veut nous faire progresser. Et quand on est en bonne santé spirituelle, si on vous dit, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses en ce moment où tu pourrais progresser avec le Seigneur, qui sont pas là où ça pourrait être? Oh oui, 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 je pense à ça et je sais que là j'ai des progrès à faire. Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Et je m'attends à ce qu'il y ait quelques domaines comme cela où ce chrétien en bonne santé spirituelle puisse justement être conscient de ses manques, conscient des domaines où il a du progrès à faire et qu'il soit en train d'y appliquer son cœur. Que son cœur soit là en disant, je sais que là, c'est insuffisant, mais j'y travaille et je veux y travailler. Alors, évidemment, il y a des chances pour que on ne puisse pas toujours répondre de manière pleinement affirmative quand on dit comment va ta foi. Ah ben, dans tel domaine elle va bien, mais dans tel autre, c'est vrai que là je suis un peu en manque. Mais quoi qu'il en soit, le chrétien devrait se préoccuper de comment va sa foi. Et je vous invite, dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi pour nous-mêmes, à ne pas simplement nous arrêter à la première question, comment ça va? Comment ça va? Oui, bien, pas bien. Comment va ta foi? Voilà une question qui est de nature à nous aider réellement. Parce qu'au fond, comment ça va? Ben, ça peut aller bien, ça peut aller mal, je peux avoir des circonstances adverses ou pas, mais en fait, la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est la deuxième. Comment va ta foi? On a envie de dire, avec l'apôtre Paul, quand la foi va, tout va. Il disait, je me plais dans les calamités, dans les détresses, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la puissance de Dieu repose sur moi. Hein? Quand la foi va, tout va. Alors nous en revenons maintenant à cette vision, ce sujet de l'apôtre Paul avec ses collaborateurs qui s'enquièrent de la foi des chrétiens, qui n'est pas passif, qui n'est pas juste un observateur qui ne s'implique pas. Je regarde si leur foi va bien ou va pas bien, mais je n'y mets pas le nez. Non. Il y met le nez. Il s'informe. Il y va. Il dit, comment va ta foi? Parce que là, je m'inquiète quand même. Je m'inquiète en ce moment un peu pour vous, là. J'ai peur que le tentateur ne vous ait tenté. Et du coup, je viens pour vous exhorter. Je viens pour affermir votre foi. Je viens pour compléter ce qui manque à votre foi. On y reviendra. Prenez avec moi Éphésiens 4. Versets 11 à 14. Un texte à partir duquel, en le mettant en relation avec notre chapitre, nous allons réfléchir au fait que nous devons permettre aux responsables d'église d'être dans leur rôle de support de ma foi. Alors en Éphésiens 4, nous lisons au verset 11, en parlant de Jésus, que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Les saints, ce sont les chrétiens, hein, mis à part pour Dieu par le sang de Jésus. Pour leur perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire à l'état d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans ce chapitre, nous voyons le fait que le chrétien est appelé à ressembler à Jésus-Christ, à grandir, à faire des progrès, et que pour cela, Dieu a donné des ministères à l'Église. Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi Paul s'inquiète de la santé spirituelle des Thessaloniciens. Et il s'agit pour les responsables d'église de l'assumer comme il se doit. Être un pasteur, c'est pas simplement être un fonctionnaire qui fait les prédications, qui a un programme, qui assure un programme, ça marche, mais qui ne va jamais voir les gens. Non, il y a ce rapport, ce désir d'un père pour ses enfants que Paul exprime et qui va pour s'enquérir de la santé spirituelle, pour compléter ce qui manque à la foi. Alors c'est vrai que on peut par contre trouver parfois un petit peu inquisiteur cette sollicitation, surtout quand notre foi ne va pas bien. Quand notre foi ne va pas très bien, on n'a pas très envie que les pasteurs d'église viennent et disent « Comment va ta foi ? J'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu flottant. » Non, ça va très bien. Ça va très bien. Hein? Mais ça me regarde. Mais ça ne te regarde pas. Hein? Eh bien, vous notez comment Paul et Timothée, ils y vont. Ils s'informent. Alors, évidemment, ici, les Thessaloniciens vont bien. Alors, la porte est ouverte. Mais, dans d'autres épîtres de Paul, et ça donne des épîtres entières, c'est pas toujours le cas, Paul n'a pas toujours été bien reçu quand il s'inquiète de la santé spirituelle des chrétiens d'une église. Il n'a pas toujours trouvé des portes ouvertes. Et certaines épîtres nous montrent au contraire une attitude totalement fermée de la part des chrétiens que Paul voudrait aider, de la part des chrétiens que Paul voudrait sauver spirituellement face au piège de Satan. Et ça fait l'objet de tout un dialogue, de toute une défense de l'apôtre Paul qui est en train de défendre son rôle de pasteur en disant: c'est pas pour vous embêter les gars, c'est pas pour vous casser. On peut ouvrir ou fermer sa porte au support spirituel. Regardez le verset 6. La fin du verset 6, c'est Timothée qui dit à Paul, il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Et ça va dans les deux sens. Paul, Timothée, ils ont envie de voir les chrétiens pour parler de la foi, pour parler de l'état de leur foi, de leur santé spirituelle. Et ici, les chrétiens ont aussi envie de voir Paul à cet égard. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on n'a pas trop envie de voir ses pasteurs. Parfois, on ferme sa porte au sens propre. C'est-à-dire, on cloisonne sa vie pour ne pas que les responsables spirituels puissent vraiment me connaître. Ah, c'est sûr que s'ils me connaissent de trop près dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans comment je fais avec mes enfants, comment je suis avec mon conjoint, ils pourraient se rendre compte que je ne suis pas tout à fait celui que je laisse paraître. Alors j'évite de me laisser connaître. Je cloisonne ma vie. Je viens à l'église, mais je ne donne pas accès au reste. Je cloisonne ma vie sur mes problèmes, sur mes luttes, sur mes chutes, sur mes péchés, surtout. Je ne vais pas parler des tentations qui en ce moment agitent mon cœur. Or, le Seigneur pourtant nous invite à tout le contraire. Regardez en Jacques 5, verset 16. Il y a une invitation à ouvrir notre porte. Jacques 5, verset 16. Déjà, ça commence au verset 14, c'est le principe de base. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? Et le mot malade ici, c'est autant malade physiquement que malade spirituellement. Et le verset 16 poursuit en disant: confessez donc vos péchés les uns aux autres. Nous on est non, mais moi je gère ça avec Dieu. C'est entre Dieu et moi et ça ira très bien. Ce verset nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il y a toute cette notion de s'ouvrir, d'ouvrir sa porte, de permettre aux responsables d'église, les anciens, ici ils sont appelés les anciens, de venir. On leur ouvre la porte pour Oui, pour parler de nos combats, pour parler de nos problèmes, pour parler de nos péchés. Confessez vos péchés. Vendredi soir, nous avons, en étude biblique, traité d'un sujet bien, bien difficile. Le sujet de « Que dit la Bible au sujet de l'homosexualité ?» Mais savez-vous qu'il y a des vrais chrétiens qui luttent avec ce sujet-là, avec une aspiration, et qui en sont prisonniers, qui en souffrent terriblement? Mais plutôt que d'en s'en ouvrir aux anciens de leur église, ils vont plutôt en parler à des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu. Et j'en connais. Et ça dure des années, jusqu'au jour où enfin ils s'ouvrent. Mais oui, parce qu'il y a des choses... On a besoin d'être ensemble. Si on pense qu'on va être là tout seul avec ses propres forces, entre moi et Dieu, ça se passe entre moi et Dieu, je n'ai pas envie d'en parler, je n'ouvre pas ma porte sur mes combats. Eh bien, il y a de fortes chances que nous restions avec. Parce que la prière agissante du juste a une grande efficacité, parce que la parole nous dit d'appeler les anciens, parce qu'elle nous dit de confesser nos péchés, de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Le Seigneur a donné les uns et les autres, les ministères dans l'Église, pour le perfectionnement des saints, pour qu'on soit plus flottant, et ballotté, emporté à droite, à gauche, un coup on est ok, puis hop, le lendemain ça va plus. Il y a une vraie équipe à faire, une équipe spirituelle, pour que ma foi aille bien, pour que ma foi tienne ferme, pour que ma foi aille mieux. Alors, c'est vrai que cela demande de laisser regarder sa vie. Quand on va me poser la question « Comment va ta foi ?», notre première réaction est toujours de trouver cela indiscret. On pourrait trouver cela indiscret aussi pour « Comment vas-tu hein, ?» Vous savez, « Comment vas-tu ?» Mais dis donc, qui es-tu pour savoir comment je vais ? C'est pour ça qu'on a des réponses toutes faites. Hein. Quand vous avez des gens comme ça qui vous disent « Comment vas-tu ?», en fait, on ne dit pas toujours la vérité. C'est une formule de politesse. Parce que si on disait vraiment comment on va aux gens, on n'est même pas sûr qu'ils veulent l'entendre, en fait. Mais comment va ta foi ? J'ai regardé une série l'autre jour, il y avait une citation qui était marrante. C'était un psychiatre qui parlait, donc c'était une blague de psychiatre. Bon. J'ai pas trouvé ça marrant, mais en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, combien faut-il de psychiatres pour changer une ampoule ? Un seul, dit-il. Mais il faut que l'ampoule veuille bien être changée. C'est un psychiatre, quoi. Voilà. Vous auriez demandé ça à un électricien, il ne se pose pas la question si elle veut bien être changée. Mais le psychiatre, il en faut un seul, mais il faut que l'ampoule veuille bien être changée. Et ça, c'est vrai dans le domaine spirituel. Oui, il y a des gens que Dieu a placés dans l'Église pour pouvoir affermir la foi, exhorter la foi, compléter ce qui manque à la foi. Paul Timothée le faisait pour les Thessaloniciens. Mais encore faut-il que l'ampoule veuille bien être changée. Alors, peut-être on peut dire, oui, mais... Ah, si j'avais affaire à d'autres pasteurs que ceux qu'il y a dans mon église, peut-être ça serait différent. Paul aussi, il a souvent entendu ça, Paul. On lui a dit, oui, le problème, c'est pas nous, vraiment, Paul. Le problème, c'est toi, c'est ton caractère. C'est ta personnalité. c'est ton exemple, franchement. Et Paul a écrit des lettres entières pour se défendre. Donc c'est rien de nouveau sous le soleil. À l'époque de Paul, comme aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour les ampoules qui ne veulent pas qu'on les change. Alors si Dieu permet que je sois ici, maintenant, dans cette église, qui est celle-ci, avec les pasteurs qui sont ceux-ci, la vraie question c'est, vais-je ouvrir ma porte pour qu'un serviteur de Dieu puisse commencer avec moi une discussion par ces mots ? Comment va ta foi ? Nous terminons avec une marche supplémentaire. Laisser les responsables s'enquérir réellement de comment va ma foi, ça c'est déjà essentiel. Mais aussi leur permettre de compléter ce qui manque à ma foi. Nous le voyons au verset, alors je reviens dans 1 Thessaloniciens 3, et nous le voyons au verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il ne s'agit pas d'un reproche que Paul adresse aux chrétiens quand il évoque le fait de pouvoir compléter ce qui manque à leur foi. Il s'agit d'une perspective de croissance, comme un fruit qui petit à petit mûrit, comme un enfant qui grandit, qui devient un ado, qui devient un jeune adulte, qui devient un adulte plus mûr, une croissance. Et tous, nous avons quelque chose qui manque à notre foi. Amen. Nous avons tous quelque chose qui manque à notre foi et que Dieu veut compléter. Celui qui dit, ben non, moi je suis parvenu à la pleine foi, il y a du souci à se faire. Alors justement, premièrement, il s'agit de reconnaître que j'ai besoin que ma foi soit complétée. Et ce n'est pas si évident que ça en a l'air. Parce que nous sommes bien trop souvent semblables, en réalité, hein, dans les faits. Quand on parle, on va tous dire, oui, bien sûr, je sais qu'il me manque des choses à compléter dans ma foi, mais en réalité, dans notre attitude, on ressemble souvent à l'église de Laodicée, en Apocalypse 3. Regardez le langage qu'elle tient. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors ça veut dire quoi, d'être ni froid, ni bouillant? Ça veut dire la chose qui, suivante, au verset 17. Et donc, faites le lien avec reconnaître que j'ai des choses où ma foi a besoin d'être complétée. C'est pas le langage qui tient. Au verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc ça va bien, ma foi. Ça va bien, il n'y a rien à y compléter. Non, je ne vois pas. Non. Ah, est-ce que nous ne sommes pas trop souvent comme eux? On n'envisage même plus qu'il manque quelque chose pour compléter notre foi. Deuxièmement, si je le reconnais, que ma foi a besoin d'être complétée encore, faut-il que j'aspire à ce qu'elle soit complétée? Est-ce que j'y aspire? Et je pose cette question ce matin. Est-ce que tu veux que ta foi soit complétée? Est-ce que tu veux que ta foi soit complétée? Et là, on a besoin de donner une réponse au Seigneur. Est-ce que je veux vraiment que ma foi soit complétée? Oui, je sais qu'il me manque des choses à ma foi. Oula, ça, je ne vais pas discuter là-dessus. Je sais qu'il me manque des choses à ma foi. Et puis voilà. Bob, maintenant que tu le sais, est-ce que tu veux que ta foi soit complétée? Ça va me coûter quoi? Je ne sais pas. Et puis troisièmement, il faut permettre à Dieu de compléter ce qui manque à ma foi, en particulier lorsque, pour cela, il a prévu de passer par le ministère des responsables de l'Église. Le Seigneur peut compléter notre foi de diverses manières, pas toujours par l'intermédiaire des responsables d'une Église. Hein, ça peut être les épreuves qui nous fait traverser, ils complètent notre foi. Hein, faire que l'épreuve de notre foi plus précieuse que celle de l'or qui périt, etc. Il y a plusieurs manières. Mais il en est une où c'est aussi par le ministère des responsables de l'Église, comme Paul et Timothée. Acceptons-nous de voir ce ministère et ce rôle dans les responsables que Dieu a donné à l'Église locale, qu'ils leur permettre de compléter ce qui manque à notre foi. Alors on va terminer hein, en disant que en attendant tout ça, en attendant nos tergiversations, il y en a un qui rôde. Il y en a un qui tente, le tentateur, l'adversaire de mon âme, Satan. Et vous savez, il s'amuse. Hein. Il s'amuse, moi, de mes tergiversations qui me poussent à garder ma porte spirituelle hermétiquement close. Je ne laisse rien paraître. Je ne parle pas de ma vie spirituelle. Je ne parle pas de mes combats. Lisse. Par quel mensonge est-ce que Satan nous pousse-t-il à garder notre porte fermée? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je garde ma porte fermée? La peur, peut-être la peur d'être jugé, la honte, l'orgueil et la fierté, l'antipathie. Oui, mais lui ne me convient pas. L'antipathie. Croire que je vais me débrouiller seul, ça nous ramène à confesser donc vos péchés les uns. Je vais me débrouiller seul, je vais le gérer. Je n'irai quand même pas dire à quelqu'un que je lutte avec ça. Non, non. Je vais me débrouiller seul. Ou alors croire que les responsables ne sont pas vraiment capables de m'aider. Ou alors simplement parce que je veux rester une ampoule qui marche mal. Quel dommage, hein? Est-ce que c'est ça ma vie de chrétien? Rester une ampoule qui marche mal? Non. Alors, plaise à Dieu vraiment, pour notre plus grand bonheur et notre joie à nous. Plaise à Dieu qu'au contraire, on aspire à être sollicité. Que quelqu'un vienne nous titiller, disant « Comment va ta foi ?» Et là, parlons. Parlons en profondeur. On peut passer des heures à parler de comment on va. Comment vas-tu? On fait une visite, comment vas-tu? On parle des heures. Mais tant qu'on n'a pas abordé la question centrale, comment va ta foi, en fait, on perd son temps, on tourne autour du pot. Parce que le levier est de l'âme. C'est la foi. Et comment je vais, ça va dépendre de comment va ma foi. Alors c'est de ça qu'il faut parler en priorité. Alors osons. Osons nous ouvrir. Relisons ce chapitre de Thessaloniciens 3. Voyons avec quelle sollicitude, quelle inquiétude, quelle insistance Paul, Timothée, ils y vont. Tant pis ce qu'on va penser d'eux. Tant pis si on les trouve inquisiteurs. Tant pis si on leur répond, mais tu te mêles un peu de ce qui ne te regarde pas. Ça ne va pas être le cas chez les Thessaloniciens, ça sera le cas ailleurs. Ailleurs, ils vont se faire jeter comme il faut, mais... Ça pose la question pour nous. Est-ce que j'ouvre ma porte ? Et est-ce que chaque jour où je me lève, je veux me poser cette question au fait ? Et je me la pose à moi-même, au fait. Comment va ma foi aujourd'hui ? Prions. Seigneur, souvent nous nous levons, nous passons nos journées et on s'examine soi-même, on se tâte, on regarde comment on va, comment on se sent. Comment on se sent ? Je vais bien, je vais mal. Et de toute façon, très dommage, Seigneur, il est rare que nous traverse l'esprit avec cette idée, mais au fait, comment va ma foi ? Seigneur, que dorénavant, tu inclines vraiment nos cœurs à nous interroger sur la vraie question qui compte. Seigneur, que nous puissions vraiment voir aussi dans les frères et sœurs de l'église locale, dans les responsables que tu as placés, ce que tu donnes comme équipe, comme supporter, pour supporter, être un support, une aide, afin lorsque notre foi va moins bien, de pouvoir trouver des gens qui nous soutiennent. Et tu vois combien, Seigneur, quand nous n'allons pas très bien, c'est pas toujours du côté des chrétiens que nous nous tournons. C'est pas toujours les solutions spirituelles que nous recherchons. Alors, pour que nous soyons en bonne santé spirituelle, pour que nous puissions tenir ferme chaque jour et que tu complètes toujours plus ce qui manque à notre foi, Seigneur, que nous soyons dans cette démarche de nous occuper de comment va notre foi et de nous en ouvrir et de faire équipe avec tous ceux que tu as placés pour cela dans l'Église. En mettant, Seigneur, de côté notre peur, notre honte ou notre fierté, notre antipathie peut-être. Toutes ces choses, Seigneur, qui peut-être nous retiennent et qui font le festin de Satan. Parce que pendant ce temps, on stagne, on végète. Et notre foi n'est pas complétée. Et notre santé spirituelle est mal en point. Alors Seigneur, que nous puissions aller de l'avant pour être en bonne santé avec toi. Au nom de Jésus. Amen.